Paul Darblanc.
Bon, j'ai la même réaction que celle de Didier. J'irai peut-être un peu plus loin que qu'il ne l'a fait. Je crois que... Bon, d'abord, le premier point, les critiques qu'on adresse à Hergé me font de la peine. Comme toujours, quand on entend critiquer quelqu'un qu'on aime bien, c'est tout. Puis, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de recevable dans ces critiques et dans ces détractions. Enfin, le mot n'existe pas dans ces propositions des détracteurs. Et c'est vrai qu'il y a des reproches à adresser à la pensée de Hergé, à la mentalité de ses personnages, et de Tintin notamment. Mais je crois que c'est vrai chez tout le monde. Bon, je suis passionné d'une littérature comme celle de Balzac, ou de Stendhal, ou de Zola, ou de Flaubert. Bon, toutes les idées de ces gens-là ne sont pas tout à fait les miennes. Que voulez-vous, c'est un peu les idées du temps. Et je crois que c'est ça qui explique Hergé. Hergé, comme l'a dit de Sissi tout à l'heure, est un témoin de son temps. Mais c'est un témoin qui, surtout dans sa jeunesse, a été un témoin inconscient. Il était dans le mouvement. Enfin, qui est Hergé ? Hergé est un garçon qui est né dans une bonne bourgeoisie, petite bourgeoisie catholique du début du siècle. Et bon, son univers, c'est l'univers des scouts catholiques. Alors, bon, il est parti de là. Il est parti de là. Alors, je ne critique pas du tout à une société en disant cela. Je crois qu'il était le produit de sa société. Et il avait à la fois les bons sentiments et il avait ce que nous savons aujourd'hui être de mauvais sentiments. Mais je rappelais tout à l'heure Alain Saint-Augan, quand j'étais un petit garçon. Eh bien, je me souviens que je lisais les aventures de Zig et Puce dans un petit journal dont le titre m'échappe, mais qui était un journal français,
illustré.
Non, encore autre chose, qui était un journal français.
Qu'a des revues,
voilà. Et qui était très, très colonialiste. Pourquoi ? Ben, parce que c'était publié par des milieux français.
C'était pas Zig et Puce que vous lisiez, mais enfin, ça n'a pas d'importance. C'est les aventures de Tui Tui et des choses comme ça.
Je crois que c'est dans ces eaux-là, je mélange un peu, pardonnez-moi, c'est le grand âge, si je me trouve très bien. Mais je sais qu'à l'époque, ce petit journal vantait périodiquement l'Empire français. Et on montrait combien la France était grande, belle et généreuse. Et je ne m'en scandalisais pas du tout, mes parents non plus. Et pourquoi ? Ben parce que c'était l'esprit du temps. Et ce n'est que longtemps après que j'ai compris qu'il y avait un autre regard à jeter sur le mouvement colonial. Ben voilà un bon exemple. Alors, bon, oui, Hergé est raciste, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai qu'il est convaincu dans ses premières années de la supériorité du blanc sur le noir, ça me paraît tout à fait évident. C'est vrai qu'il y a des petits coups de patte vers certains personnages dont la dimension sémitique est évidente, n'est-ce pas ? Monsieur Bolwinkel, c'est pas par hasard qu'il s'appelle Monsieur Bolwinkel.
C'était Blumenstein dans la première édition.
Et dans la première édition, c'était Blumenstein, vous avez raison, il est devenu Bolwinkel après ce qu'il dédouane un peu, mais enfin, vous voyez que malgré tout, on y pense. Il est évident qu'un monsieur comme Rastapopoulos, dont le nom même, Rastaquer, montre bien et son petit côté levantin,
tout, propre,
tout ça. C'est pas tout propre, tout ça. Mais que voulez-vous ? C'est vrai que ça me gêne un peu, mais je crois qu'il faut savoir transcender cela. Et je crois que si on dit ce que je viens de dire, il faut aussi dire le contraire. Enfin, ce qui est le pendant, si vous voulez, la réciproque, ce qui fait le poids, le contrepoids, c'est que Tintin est généreux. Alors, il l'est, évidemment, naïvement, relisez le Lotus Bleu. Et au fond, il enfonce des portes ouvertes pour nous quand il dit, tiens, toi, tu es un petit Chinois, au fond, tu es comme moi, et c'est affreux, je me faisais de fausses idées sur ton pays, je croyais qu'on jetait les petits enfants à la rivière, je vois bien que ce n'est pas ça. Au fond, il fait la démarche que nous faisons tous. Alors, l'important me paraît, qu'est-ce qu'il reste chez le Hergé d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il a fait le chemin que nous avons fait nous-mêmes, que nous croyons que nous avons fait ? Est-ce qu'il a fait ce chemin-là ? Et là, je crois que la réponse est oui. La réponse est oui. Il est certain que le Tintin de Tintin au Tibet et que le Tintin des Picaros, je m'empresse de dire que les Picaros, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'œuvre de Tintin, mais au plan moral, ce Tintin est totalement irréprochable. Il le serait même peut-être un peu trop. Il devient trop clean. Mais enfin, ça montre qu'Hergé a été sensible à tout cela et qu'il a voulu faire son chemin. Alors bon, je me résume, je crois qu'Hergé est un produit de son époque, comme tous les créateurs le sont. Il n'est pas un maître à penser, il ne s'est jamais présenté comme tel, il n'est pas un maître de morale, ceux qui le considéreraient comme tel auraient bien tort, c'est tout. Alors, je crois qu'on a le droit de faire toutes les critiques que l'on veut, il faut les faire d'une manière pesée et nuancée, et une fois qu'on tombe
tant dans la haine et dans l'excès, eh bien, je crois que, comme l'a dit Didier tout à l'heure, ceux qui agissent ainsi se cataloguent eux-mêmes.
Ils ne méritent que le mépris.
Voilà. Je crois que tout a été dit. Je pense d'ailleurs que Hergé, le premier, reconnaît tout ce que nous venons de dire dans les nombreuses interviews auxquelles il a répondu. Il dit très souvent, effectivement, que quand il a parlé comme il a parlé, c'était il y a 40 ans, il y a 50 ans, et que le monde était différent d'aujourd'hui. Ici, il y a un petit extrait du livre de Sadoul, où il dit « Je suis avant tout un homme de bonne foi. Je ne me sens pas plus de droite que de gauche. Ce qui est vrai, c'est que je suis un homme d'ordre. » Et c'est vrai, dans toute son œuvre.
C'est Alain qui disait « Celui qui n'est ni de droite, ni de gauche, est de droite.
» Oui, si on veut.
Comme quand on ne fait pas de politique, on en fait tout de même. Je voudrais tout de même faire deux petites remarques. À propos de Tintin au pays des Soviets.
Mais là, encore une fois, c'est l'esprit du temps. C'est l'esprit du temps. Et puis, nous avons passé, après la guerre, après l'euphorie de la victoire, nous avons passé une époque où l'anticommunisme a été vraiment très mal reçu, notamment dans nos milieux, dans les milieux de gauche, à la fois politique et philosophique. Et puis, je ne sais pas si vous remarquez comme moi, depuis quelques années, la balance oscille de l'autre côté. Nous commençons à nous reposer un certain nombre de questions sur la pureté de l'idéologie communiste. Et tout à coup, voilà que Tintin au pays des Soviets redevient un peu moins scandaleux qu'il ne l'a été voici 5 ou 10 ans. Hein, ça montre bien combien les choses vont et viennent. Alors, il y a un point tout de même, Didier, si tu permets, sur lequel j'aimerais revenir, mais on me pousse un peu sur ma gauche, parce que je ne suis pas venu tout seul, le dimanche je ne peux pas sortir seul, c'est l'antiféminisme d'Hergé. Et alors là, je crois que c'est tout de même un petit reproche qu'on pourrait lui adresser. Ce n'est pas un antiféminisme virulent, bien sûr qu'il ne méprise pas les femmes, il les ignore tout simplement. Ou quand elles figurent dans l'œuvre, ce sont des personnages absolument secondaires. La seule femme un peu décente que je vois, c'est Madame Clermont, dans Les Sept Boules de Cristal, qui est la femme d'un des explorateurs et que l'on voit au Music Hall, n'est-ce pas ? Alors elle est normale, elle est même plutôt jolie, elle n'a pas beaucoup de personnalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis c'est tout. Les autres sont soit des concierges, les concierges sont très bien d'ailleurs, elles sont assez positives, un peu caricaturales, mais ça va. Ou alors ce sont d'horribles mégères, comme la femme d'Alcazar.
Ou de la Castafiore.
Hein ? Et alors la Castafiore, oui, mais la Castafiore, ça c'est autre chose, n'est-ce pas ? La Castafiore, c'est un monument à soi tout seul. Et un jour, nous avons posé la question à Hergé. Enfin, quand je dis nous, ce n'est pas un nous majestatif, c'est ma femme plutôt qui lui a posé la question. Il dit, pourquoi mettez-vous jamais de femmes dans vos albums, autrement que de manière caricaturale, ou comme je viens d'essayer de l'évoquer. Et Hergé lui a répondu, mais c'est parce que je les aime trop et que je ne peux les représenter que caricaturales ou que déformées. C'est un très mauvais argument, c'est une réponse à laquelle nous n'avons pas cru.
Oui. Je ne pense pas. Moi, je crois que le trait d'Hergé et sa technique est caricaturale. Et vous ne voyez jamais un beau garçon. Non, une femme caricaturale ou comique, c'est pour ça que tous ces personnages féminins sont en général des concierges ou de la Castafiore, etc. Regardez, même Walt Disney, par exemple, dans ses films, dès qu'il représente des personnages féminins comme des fées ou des personnages comme ça, ou Blanche-Neige, ils sont ridicules. Ils ne sont acceptables que lorsqu'ils sont les nains des...
Savez-vous pourquoi, Guy ? Où sais-tu pourquoi je le vous sois tout à coup ? C'est parce que le micro m'impressionne. C'est simplement parce que Hergé n'appartient pas à une génération où les femmes occupent dans la société des fonctions comparables à celles des hommes. Vous dites que les hommes sont tous caricaturaux. Ce n'est pas vrai. Prenez Monsieur Baxter. Monsieur Baxter, qui est le patron de la base atomique de Sprotch. C'est un monsieur parfaitement normal. Vous le rencontreriez à la rue. Eh bien, c'est monsieur tout le monde. Il a une petite moustache. Il est bien propre, bien coiffé. N'est-ce pas ? Il n'est pas caricatural du tout. C'est assez rare. Hein. Je reconnais que c'est assez rare. C'est un personnage secondaire. Mais il n'y a pas de femme
relativement caricatural dans la mesure où c'est le fonctionnaire et des choses comme ça.
Oui, mais enfin...
L'argument que je voudrais apporter quand même en faveur d'Hergé, c'est que Hergé manipule un système de récit, manipule un système de de création qui est celui du roman populaire. Et dans le roman populaire, eh bien, d'époque notamment, et même dans la bande dessinée actuellement, et dans le roman populaire en général, il faut bien avouer que la femme n'a pas beaucoup de place. Mmh. Et ça, c'est un phénomène de société. Mmh. Et je ne crois pas que Hergé soit anti-féministe pour ça, mais
non,
simplement,
il est de son temps.
Ce sont les ressorts de l'aventure. Il est imposé. Enfin, il est assez évident que de Jules Verne à, je ne sais pas moi, à Bob Moran, en général, les femmes ne courent pas l'aventure, et si elles courent l'aventure, c'est un phénomène récent.
Mmh. Voilà, je dois malheureusement vous interrompre pour l'extrait suivant parce que le temps passe. Bon, à côté de tous ces détracteurs, il y a heureusement toute la ferveur populaire qui a accompagné chaque partie de la vie publique d'Hergé. On va entendre Luc Beyer parler du voyage qu'il a accompli aux côtés d'Hergé en Chine et puis Gérard Vallée parler du retour de Chang l'année passée.
Eh bien, en fait, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que je rencontrais Hergé, mais je ne le connaissais pas très bien avant ce voyage. Hergé est un homme qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un extraverti. C'est un homme réservé, c'est un homme peut-être un peu secret, c'est un homme qui aime en tout cas préserver son univers à lui. Et son univers à lui n'est pas nécessairement l'univers de Tintin. Il a une vie privée, un univers moral, il n'est pas ce personnage extraverti que l'on pourrait peut-être imaginer, même si c'est un homme qui a énormément de fantaisie, qui a énormément d'imagination, qui est un créateur, comme en témoigne son œuvre. Alors je l'avais rencontré, je ne sais plus très bien à quelle occasion, mais c'était pour une interview, je l'avais interviewé, nous avions sympathisé, enfin nous nous connaissions peu. Et puis est survenue l'invitation en Chine. Et l'invitation en Chine est à elle seule une histoire. Tout à l'heure, j'ai parlé du Lotus Bleu. Eh bien, lorsque Hergé a écrit le Lotus Bleu, les Chinois, et c'était à ce moment-là la Chine nationaliste, la Chine de Chiang Kai-shek, ont été très heureux. Ont été très heureux de cet album, et Hergé a reçu une invitation de Chiang Kai-shek pour se rendre en Chine. Mais la guerre est survenue. La guerre est survenue, ce qui fait que l'invitation a été rendue caduque, dirais-je, par le fait de la guerre. Et puis les événements sont précipités. Il y a eu tout ce que nous savons, c'est-à-dire Mao qui a succédé à Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek se rabattant avec son armée comme un vol de gerfaux à Taïwan, à Formose. Et puis soudain, 34 ans après, voilà qu'Hergé, qu'on renoue avec le passé, et qu'Hergé est invité par Madame Chiang Kai-shek pour honorer cette invitation à laquelle il n'avait pas pu se rendre. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis rendu avec Hergé en Chine. Dans ce cadre-là, encore que mon invitation était une invitation séparée. Mais ces invitations se sont confondues. Et je le dis, Hergé est un homme secret, un homme qui n'aime pas exagérément se livrer. Et il a eu certainement peut-être une petite réticence au départ. Au fond, il aurait peut-être préféré partir seul, je ne sais pas. Et puis, nous sommes partis à deux. Et cela a très bien marché. Cela a très bien marché. Nous nous sommes plus, dirais-je. Nous nous sommes plus. Et ce fut une expérience, en tout cas pour moi, ce fut une expérience merveilleuse que de découvrir la Chine, ou en tout cas un morceau de Chine, avec le père du Lotus Bleu. Et je dois dire qu'à travers ce voyage, j'ai découvert aussi le personnage d'Hergé, le personnage intéressé par des formes multiples de la pensée, et il ne faut pas réduire, je dirais, Hergé au seul univers de Tintin. Hergé est un homme qui est passionné, par exemple, par la philosophie, qui est passionné par le zen, qui est passionné par l'Asie, qui est passionné tout autant par l'art moderne. C'est donc un homme qui a une vie intérieure très riche et qui a un très grand goût de l'art. Et la rencontre avec Chang et je parle de Chang parce que nous parlons de l'Asie et parce que nous parlons de la Chine, la rencontre avec Chang, c'était certes la rencontre d'une amitié, mais c'était aussi la découverte de l'Asie. C'était la découverte d'un art asiatique, la découverte du trait. Par conséquent, là, il y avait beaucoup d'éléments qui intervenaient dans cette rencontre avec Chang, et c'est ce qui explique aussi la ferveur et l'émotion qui ont présidé aux retrouvailles avec Chang. Que furent ces retrouvailles? Là, je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai rien parce que je ne le sais pas, mais aussi parce que je pense que cela doit demeurer peut-être de l'univers, ça appartient à l'univers intérieur des deux hommes. Et c'est certes une entreprise difficile que de retrouver un homme si longtemps après, alors que toutes les expériences de la vie de l'un et de l'autre les ont séparés et qu'ils se retrouvent. Comment le contact s'est-il renoué, s'est-il à nouveau établi? Ça, c'est peut-être le secret de Chang et le secret d'Hervé.
D'avoir une petite contestation avec l'université de Louvain parce que j'ai lu dans un recueil que l'université de Louvain avait retrouvé Chang et avait prévenu Hergé. Fort heureusement, nous avions fait un an avant, sans Chang, une émission avec Hergé, ce qui nous a permis de remettre les choses en place. C'est-à-dire que je crois que Henri Rohan et moi, déjà une bonne dizaine d'années avant, nous pensions, tiens, si nous retrouvions ce Chinois, nous avions d'autant plus de facilité pour le faire, enfin tout au moins pour l'imaginer, que nous avions fait un film sur la Chine après la révolution culturelle vers les années 71, je crois, et qu'à ce moment-là, nous savions où était la Chine, comment étaient les Chinois, on palpait davantage la réalité, et faire venir Chang, nous en mesurions à la fois les difficultés et l'intérêt. Quand nous avons fait le film, cette idée est revenue tout naturellement à la surface. Et puis, bien sûr, comme on est tous un peu débordés, on l'a oublié, on s'est dit, est-ce que c'est important pour l'instant? Il se fait que, en 1979, on m'a proposé de faire une émission de télévision, et pour essuyer les plâtres, j'ai tout naturellement demandé à Hergé, si ça ne m'ennuyait pas, de faire cette première émission de télévision, et je lui ai dit cela quelques mois avant, et je lui ai dit, et si on faisait venir Chang, j'en ai parlé déjà à des amis de la Chine, à des Chinois, et il semble que ce ne soit pas impossible. Hergé croyait que c'était relativement impossible, parce que de son côté, il avait essayé, bien sûr, de retrouver un ami à plusieurs reprises, et nous avons commencé à nous mettre en marche avec ce côté Tintin que nous possédons nous-mêmes, et on s'est dit, ça y est, c'est fait, le 1er octobre, ce qui était une bonne date, puisque c'était l'anniversaire de l'arrivée de Mao Tse-tung sur la grande place de Pékin. On s'est dit, voilà, là, on tient en main toutes les chances, l'anniversaire du discours de la place de Pékin, de la révolution chinoise. Donc, on s'est dit, il y a Hergé, dépêchons-nous, on a 3 mois devant nous, oh, avec ça, on va y arriver. Bon résultat, on a mis 2 ans. Ça s'est passé d'une façon qu'il est relativement impossible de décrire si on n'est pas allé en Chine ou même éventuellement au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel est le oui qui correspond à un oui et le oui qui correspond à un non. Je sais que ça a duré beaucoup, qu'on a écrit beaucoup, qu'on a eu des craintes jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que lorsque nous avons eu l'accord d'un merveilleux attaché culturel, je dis qu'il est merveilleux parce qu'il nous a dit ça marche, de l'ambassade, on est allé chercher, je voulais même aller chercher Chang en Chine et je n'ai pas pu y arriver. Nous sommes allés chercher Chang à Paris et jusqu'au moment où il est sorti de l'avion, où Hergé, qui n'avait pas pu nous accompagner parce qu'il était à l'époque très fatigué, jusqu'au moment où nous avons vu sortir Chang de l'avion, nous ne savions pas qu'il était dans l'avion, nous ne savions rien. Et je dois dire qu'en dehors de notre grande maison où nous travaillons, c'est-à-dire la RTB, nous avions pris des risques assez énormes, parce que Ça ne se fait pas sans moyens. Et là, je suis heureux de les avoir pris, d'ailleurs, puisque ça a marché. Mais on avait quand même misé beaucoup parce que on était fous. C'est, enfin, si je vous dis ça, c'est qu'on nous l'a dit. On était fous, mais ça a marché. Donc, je conclue que j'espère qu'on restera encore assez fous pour trouver deux, trois idées comme ça.
Ces retrouvailles ont fait la une des journaux. On a eu droit à un reportage en direct à la RTB lors de son arrivée, avec même le journaliste ému presque en pleurs pour les accueillir. Est-ce que Chiang était conscient de son importance ?
Certainement pas. Si vous connaissez la Chine, à travers des livres même, c'est un pays où on remet tous les gens à leur place. Et je pense que c'est un euphémisme. Je pense qu'on a tendance à vouloir diminuer les vedettes, les élites. Et bien sûr, il suffit de dire élite aujourd'hui pour qu'on vous traite de facho, mais de temps en temps, il faut reconnaître qu'il y a des gens qu'on invite chez soi avec qui on a plus de plaisir que d'autres. Ce sont ces élites à soi. Et je pense que c'est dommage qu'on est en train de galvauder ce mot et d'en faire une espèce d'étiquette insupportable. Il est certain que, et je dis cela parce que aujourd'hui, où on veut niveler le plus possible, ce serait triste qu'on arrive à vivre pour nous, Européens. Je ne dis pas que les Chinois n'ont pas fait de grands progrès, que ce n'est pas un pays extraordinaire, admirable, mais je pense que c'est un mode de vie vers lequel nous n'avons pas intérêt à nous tourner, parce que un homme comme Chang, qui était reparti étudiant avec devant lui une carrière, derrière lui des solides études, s'est trouvé minimisé, et il est rentré dans le rang, et un rang dont on ne peut pas donner tous les détails, mais qui n'est pas particulièrement amusant. Je pense que c'est un homme qui a fait des œuvres passionnantes pour lui et pour la Chine, parce que bien sûr, quand on les voit, ce n'est peut-être pas l'art moderne 1983, mais je sais que à certaines périodes, sous la pression de mouvements contestataires, il a dû, si je ne me trompe, et j'espère que ça va rester entre nous, ce qui est toujours un peu bête quand on parle devant un micro, je crois qu'il a dû casser ses propres œuvres pour faire plaisir aux petits camarades. Donc, je pense qu'à ce point de vue-là, Chang ne pouvait pas imaginer une seconde l'importance qu'il avait dans le monde et qu'il avait servi de héros dans l'œuvre d'Hergé. Il le savait parce qu'il y avait eu des communications plus ou moins discrètes, mais se rendre compte de la répercussion même de l'œuvre d'Hergé, il ne le savait absolument pas, puisque Hergé a envoyé des albums qui sont revenus. Donc lui a vécu certainement une surprise tout à fait étonnante. L'accueil à Zaventem a dû le surprendre énormément. Mais alors, à côté de cela, s'il n'était pas au courant, s'il était dans une sorte d'uniformité en Chine, il a pu passer à côté d'un tas de choses sans même les voir. Ce qui d'ailleurs nous a le plus surpris, c'est de parcourir les rayons même du free shop en arrivant à Paris, et de ne s'étonner de rien. Je dois dire que ça, c'est aussi une grande qualité chinoise, c'est que le fait, comme on dit toujours, de ne pas vouloir perdre la face, fait qu'on a toujours l'air de ne s'étonner de rien. On aurait été au milieu, on serait rentré dans un tournage de films pornographiques, que je pense que ça n'aurait pas modifié la face de Chang, sauf ce qui l'a ému le plus, je pense, c'est de trouver l'épaule d'Hergé.
Comme conclusion pour cette série d'émissions et en guise de bougies et de feux d'artifice, je voudrais qu'on parle d'un phénomène à nouveau unique dans l'histoire de la bande dessinée qui entoure Hergé, qui s'appelle la tatinologie, la science de Tintin. Rapidement, malheureusement, en 2-3 minutes, je vous promets qu'on refera une occasion sur le sujet. Que sont les tatinologues, Paul Damblon ?
Je crois qu'il faut distinguer des degrés. Je crois qu'il y a des tatinologues, il y a des tatinophiles. Il y a aussi des tintinolâtres et des tintinomanes. Vous pouvez multiplier à l'infini. En fait, il y a des gens qui ont été sensibilisés par tout ce que nous avons dit et qui réagissent en structurant leur enthousiasme, parfois sur des épreuves de connaissance. Et je crois que c'est ça un tintinologue. Un tintinologue, c'est quelqu'un qui prétend, qui croit, qui imagine bien posséder l'œuvre d'Hergé et enfin l'œuvre de Tintin spécialement, principalement, et être capable de se situer dans cette œuvre avec beaucoup de
science,
d'efficacité, avec beaucoup de science, disons-le. Mais je dirais que nous avons vécu des moments de tintinologie autour de cette table. Chaque fois que l'un d'entre nous évoquait, hein, tout à l'heure quand j'ai dit Monsieur Baxter, j'ai vu vos yeux briller à tous. J'ai dit Monsieur Baxter, très bien, on le voit. N'est-ce pas, si j'avais eu le malheur de me tromper d'album, je crois que vous m'auriez éjecté de ce studio et que je serais parti d'ailleurs très triste et très, très humilié. C'est ça la tintinologie.
Didier, tu fais partie d'un club de tintinologues.
Oh non, c'est d'un club de tintinophiles. Je crois que mon ami Damblon est plus tintinologue que moi. D'ailleurs, je l'ai vu il y a quelques années coiffé d'un mortier en train de faire un discours sur le Bordureau-Silda dans la bande dessinée dans la bande dessinée d'Hergé.
Oui, évidemment. Mais ça, c'est le côté, je dirais, quasi officiel de mon personnage.
Ouais. Quelles sont les activités de ce club?
Disons que c'est un club qui se réunit chaque année le 1er mai. Dans une capitale quelconque d'Europe. La première année, ça a été Paris. La deuxième année, c'était Bruxelles. Et l'année prochaine, je ne sais pas encore quel est le lieu. C'est notre frère supérieur qui le dira quelques jours avant le 1er mai de l'année prochaine.
Je vous suggère Genève et l'hôtel Cornavin.
Oui, Genève a été une des suggestions. On pense à Amsterdam et à des choses comme ça. Ouais. Amsterdam, qui est le centre, qui est la capitale d'un mouvement qui s'appelle la ligne claire, une espèce de terme barbare qui désigne Estienne Hergé. Et je pense que c'est le bienvenu, d'ailleurs, Amsterdam, parce que quand on pense à... Je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre la Hollande et Hergé, je trouve.
Oui, quoi que Tintin ne soit jamais allé aux Pays-Bas. Hein.
Non, c'est bien dommage, je l'y verrais bien, parce que tout est plat là-bas, oui, linéaire, oui, puis c'est le pays de Mondrian, de Descartes à une certaine période, tout un programme de clarté,
de linéarité
oui, qu'on peut retrouver chez Hergé. C'est Vermeer, par exemple.
Bien, je vais laisser les mots de la fin à Luc Honoré, puis à Hergé, évidemment, au micro de Michel Cédric, puis de Patrick Anspach.
On rencontrait souvent Hergé à des premières de théâtre, des choses comme ça. Maintenant, il ne le fait plus et malheureusement, on a moins de contact avec lui. Mais je me rends compte que j'ai oublié quelque chose avec Chang tantôt. C'est qu'au fond, Chang, c'est le même principe que le fétiche Arumbaya qui a été shippé. Chang qui revient et qui retrouve Hergé, ça pourrait à nouveau faire partie d'un album d'Hergé. C'est incroyable comme le monde d'Hergé est un monde en lui-même. Les fêtes de la vie, les fêtes des albums, tout ça a créé un imaginaire qui est typiquement belge et qui est fabuleux.
C'est peut-être ce qui explique ce phénomène de star qui entoure Hergé actuellement en Belgique.
Oui, je ne suis pas sûr que c'est un phénomène de star. Je crois que c'est un phénomène... Hergé est beaucoup plus quotidien. Je crois que si les gens le rencontrent dans la rue, ils ne vont pas avoir un phénomène de star, c'est-à-dire de rester devant lui la bouche bée, les yeux grands ouverts. Mais je crois que pour eux, Hergé fait partie du quotidien. La télévision avait créé ce problème, que soudain des présentateurs de TV... était dans notre salon, et Hergé, bien avant la télévision, grâce à ses albums, grâce à sa présence, était également dans le salon de lecture des gens, tout à fait présent. Il n'est pas du tout une star, je crois pas que c'est une star.
Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit « Two is a company, three is a crowd. » Deux est une compagnie, trois est une foule. Alors, du moment que... Moi, j'aime bien le dialogue, j'aime beaucoup les gens, j'aime les gens, vraiment. Mais j'aime parler avec eux. Ou dans une grande réunion, vous dites bonjour, au revoir, comment allez-vous, etc. On se reverra l'année prochaine. Téléphonez-moi, ou plutôt ne téléphone pas, c'est ça. Les mondanités, ça, je n'y tiens pas, c'est vrai.
C'est superficiel.
c'est très superficiel.
Mais même parmi les dessinateurs, oui. Bon, on a un peu l'impression qu'il y a... En fait, c'est un milieu de copains, oui. Qui parfois ils sortent oui. ensemble, ils oui. s'amusent. Oui. On a un peu l'impression que vous êtes en dehors de cela. Je pense même à un album qui a été fait pour les 50 ans de Franquin. Oui. Et vous ne vous étiez pas mêlé aux autres dessinateurs pour faire non. cet album. Je crois que vous avez envoyé à Franquin votre album archive, mais à part, donc un peu en solitaire. Quoi.
C'est possible, ça, c'est possible. Je n'attache pas à ça d'importance. Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens pas bien de ça. Mais tout ce qui est, je dirais, organisation, zusammenmarschieren, je n'aime pas.
Vous appelez ça comment, ces espèces de compagnies, là, comme ça?
Oui, tout ce qui est embrigadement, cercle ou société, ça, je ne suis pas très partisan.
Société.
Les sociétés.
C'est du bruxellois.
Ça, c'est du bruxellois, ça, bien sûr.
Vous êtes plus bruxellois que belge? Non. Ça ne peut pas se dire, de toute façon.
Ça ne peut pas se dire. Non, mais enfin, de toute façon, je suis né à Bruxelles. C'est un hasard, mais enfin, ma grand-mère était vraiment bruxelloise et ne parlait que le marolien, c'est-à-dire un mélange curieux entre le flamand et le français. Je ne l'ai jamais parlé, cette langue, mais je l'ai entendue et maintenant ça me revient parfois.
Cuic et Fluc, alors
Cuic
sont
et Fluc,
des...
Oui, bon, de c'est des gamins de rue, c'est pas tellement les membres, c'est un gamin de rue. Tout le monde joue à la rue à ce moment-là, en tout cas moi j'étais un gamin de rue comme les autres. Et c'était gai parce qu'il y avait pas de voiture. Enfin, il y avait des voitures à cheval, mais les autos, c'était rarissime, évidemment. J'étais un gamin de rue, oui, oui.
C'est pour ça qu'il n'existe plus, parce que les enfants ne jouent plus dans la rue, parce que...
C'est difficile de jouer dans la rue maintenant, hein.
C'est pour ça qu'il n'y a plus de Cuic et Fluc.
Non,
à cause
pas seulement
de Tintin,
ça,
aussi.
Non, c'est à cause de Tintin qui a pris de plus en plus d'importance et qui m'a monopolisé. Il est insatiable, ce garçon.
Passion pour la peinture moderne. Vous n'avez jamais essayé de réaliser des toiles?
Si, mais il y a très longtemps. Là, il y a au moins 10-12 ans que j'ai essayé ça, et en me disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, eh bien non, rien du tout. Je n'avais strictement rien à dire. J'aurais dû apprendre laborieusement le métier de peintre, le métier, la cuisine du peintre.
Le métier de dessin, est-ce que vous l'avez appris?
Non, mais je l'ai pratiqué. La peinture aussi, mais comme je ne dispose pas d'un capital énergie double, il fallait ou bien choisir, ou bien faire du dessin, ou faire ce que je fais, raconter des histoires, ou bien peindre. Parce que deux choses à la fois comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon, il y a une schizophrénie, on se divise contre soi-même, ça n'est pas bon. Je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs de bande dessinée qui louchent vers la peinture, je l'ai d'ailleurs fait moi-même, je ne leur jette pas la pierre, mais... Pour moi, c'est classé, liquidé, sans aucun regret, sans aucune amertume. Je me suis dit, tiens, au fond, je suis plutôt fait pour raconter des histoires.
Hergé, toute modestie mise à part, si on vous proposait, par exemple, un poste à l'Académie française...
Mais voilà ma réponse.
Fin de notre hommage à Hergé, du moins de l'hommage sur antenne, puisque la meilleure façon de rendre hommage à ce tout grand auteur est encore de se replonger dans ses albums avec toujours le même plaisir. Je remercie tous ceux qui ont collaboré à ces 10 heures d'émission, je remercie aussi Michel Campus pour l'aide technique, mais surtout je remercie Hergé pour tout ce qu'il nous a apporté. Comme le disait Paul Damblon, Hergé, par le bonheur qu'il nous apporte, est devenu l'un des bienfaiteurs de l'humanité. Merci Hergé et bon anniversaire.